RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Football show. Football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit avec vous en direct comme tous les soirs bien sûr. L'After est sur RMC, l'After est sur RMC Sport News avec l'équipe du mardi soir, l'équipe de rêve, une sorte de dream team de l'After qui est là dans l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Jérôme Bretagne, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Messieurs, nous sommes là jusqu'à minuit avec au programme ce soir. Vous le savez, le programme de l'After, c'est toujours précis et carré, comme d'habitude. Dans une minute, le dossier de l'After, lancé par Michel Platini himself. C'est avec demain soir dans Transversal, l'émission présentée de main de maître par Daniel. Il y a une longue interview de Michel Platini, un document, comme on dit dans le milieu, qu'il faut absolument pas rater. Platini parle des Coupes d'Europe, de son histoire avec la Coupe d'Europe, entre autres. Et il le dit pour lui, vous allez l'entendre, le foot de club est au-dessus du foot des nations. Et ben nous aussi, on va en débattre. Le foot des top clubs est-il meilleur que le football des top nations? 32-16, on vous attend. 22h30, vous le voyez, l'avis de Jérôme tout à l'heure qui concerne l'équipe de France et son 11 type. On aura ensuite l'avis de Daniel sur la possible future troisième Coupe d'Europe. Et puis à 23h, nous débrieferons les matchs internationaux du soir. Je vous fais le point sur les scores dans quelques instants. On ira notamment en Angleterre et en Espagne. Et puis 23h20, messieurs, nouveauté de l'After. On lance ça ce soir à la demande de pas mal d'afteriens qui nous suivent depuis des années et puis qui aiment ce genre de jeu. On va club par club définir l'équipe de rêve et l'équipe cauchemar de nos grands clubs français. Alors, on démarre par l'OM, parce qu'il fallait qu'on démarre par un gros club. Avec, et l'OM, il y a quand même de quoi faire des belles équipes de rêve, mais aussi des belles équipes bien pourries. Donc, on va bien s'amuser avec ça. Donc, vous nous envoyez ça sur Twitter, hashtag équipe de rêve ou hashtag équipe cauchemar. Voilà. Je peux déjà vous dire que dans les gardiens de but, Gavanon est cité très régulièrement dans une des deux équipes de l'OM. Je vous laisse deviner laquelle. Il y aura également toute l'actu mercato du jour, un quiz tout à l'heure avec bien sûr les nouveaux t-shirts à gagner, les nouveaux t-shirts de l'After à gagner à 23h45.
Dans le concept de, c'est comme à l'époque du, tu te souviens du ballon de plomb. En fait, il faudrait préciser parce que si dans le 11 cauchemar de l'OM tout à l'heure, on voit des mecs qui certes le nom évoquer le nom peut faire marrer, mais si c'est des mecs qu'on quasi pas joué, je trouve que c'est pas drôle. En fait, le concept de ce machin.
Gavanon a joué un match de Ligue des Champions. Hein.
Ouais. Alors,
par exemple, le concept, ça sera un joueur qui a joué régulièrement.
Qui a joué régulièrement, mais qui en fait était un peu considéré.
Bon,
mais limite, on avait presque un peu d'affection pour lui, mais c'était grosso modo une baltringue. Tu vois, c'est si c'est pour aller mettre dans l'équipe de l'OM des le 11 pipe, des Jiménez, vous avez comme ça qu'on a quasi pas vu, quoi,
c'est
ou des.
Jiménez, il joue en championnat tout le temps. L'année où Jiménez est là, Jiménez joue tout le temps. Ah non, 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 voilà. Non, mais après tout, il faut aussi laisser parler la spontanéité. Parce que tu peux avoir
oui,
des joueurs
c'est
qui ont
facile.
Pu jouer. Regarde
en fait,
Deal, par exemple.
Non, ça Deal. C'est ridicule. S'il y a, c'est ridicule.
Oui, mais alors, si Deal, Deal, s'il y a, peut-être c'est ridicule. Mais n'empêche que ce mec-là a laissé une trace à l'OM comme un mec, comme une chèvre. Voilà.
Non, non, non. Moi, je pense que le mec doit avoir joué un paquet de matchs. Tu dois identifier que le mec a joué vraiment. C'est plus drôle. Enfin, moi, je trouve que c'est plus drôle. Après, je demande personne d'être d'accord avec moi, forcément. Mais je trouve que c'est un peu plus marrant, quoi. Je sais pas.
Écoute, on lance la formule ce soir. On va voir comment ça prend sur Marseille. Demain, on fera un autre club. On les fera tous.
On peut
même aller sur le club
de
Ligue 2, hein, Lens, par exemple.
Les Delphines ou les mettre comme ça qui n'ont pas joué, en fait.
Ouais, voilà. Faudrait qu'il y ait un minimum d'apparitions.
En revanche, tu mets un Sitchef qui avait sa chanson. Ouais. Les mecs croyant en lui, en fait, bon,
il a joué.
Que c'était une pipe.
Il a joué.
Là, c'est drôle. Parce qu'en plus, ça te fait penser à des moments où le public s'est un peu, tu vois, je sais pas, je pense au PSG.
N'essaie pas d'influencer les votants.
À un moment, le public s'est quand même levé pour des mecs comme Pantelić ou Kezman, mais comme ça, tu vois, bon, là, c'est
Pantelić.
Rigolo, quoi. Bon, Kezman, il a quasi pas joué.
Pantelić.
Mais bon, voilà, c'était drôle, quoi.
Et Kennedy, tu te souviens du latéral Kennedy?
Voilà, là, lui, évidemment, qui doit être dans l'équipe le 11 PSG.
Bon, Messieurs, quelques matchs parce que ce soir il y a de la Ligue des Nations. La Ligue des Nations qui continue.
Je peux en avoir, ouais.
Bah lui il a vu les Brésiliens déjà.
Ouais, mais c'est toujours pareil, les Brésiliens, ils ont quasiment pas joué.
Ouais, voilà, ouais.
Donc il y en a un qui a pas joué.
Les noms sont restés parce qu'à l'OM et au PSG, ce qui les choses restent un peu plus, mais il faut que
Souza un peu plus que Everton. Everton, il a dû faire un ou deux matchs à Paris.
Ouais, voilà. Bon, ouais.
Si.
Il a réussi à les faire les deux.
Bah il y a un demi.
Ouais, je sais pas.
Déjà le mec, il avait un nom de club anglais, c'est chelou. Bon bref, alors il y a les matchs ce soir, notamment l'Espagne, Ligue des Nations. L'Espagne est en train de mettre un carton à nos amis croates finalistes de la Coupe du Monde. Fred Hermel est là pour suivre le match. Salut Fred.
Hola chicos. Ben on appelle ça une manita, hein, puisque Ramos vient de marquer le cinquième, corner d'Asensio, tête de Ramos, enfin tête classique du défenseur central et capitaine de la sélection du Real. Et là c'est vraiment dur pour les Croates parce qu'ils arrivent de partout. 65% de possession pour les Espagnols, donc 35% pour les Croates, et les Espagnols sont largement supérieurs, même si au début de la rencontre ils ont eu 2-3 occasions les Croates, mais vraiment des très très bonnes occasions. Les Espagnols étaient pas bien organisés derrière, mais alors l'efficacité là avec un Asensio extraordinaire, parce que même si le deuxième but est accordé au gardien de la Croatie Kalinic, parce que le ballon lui rebondit dessus, ce soir Asensio c'est quand même 2 buts, 2 frappes extraordinaires et 2 passes décisives, quoi. Donc
c'est dommage que ça serve à rien, quoi. Les Espagnols ils mettent des tannés à tout le monde pendant des années, ils remettent des tannés.
Si, attends, ils vont retrouver la France en finale en juin.
Super.
Et puis la Belgique. France-Belgique, ça va être chaud, ça, non?
Et quand il faut être bon au mois de juin, ils étaient pas là.
Mais la dernière fois, tu sais,
c'est
bien
un peu
que,
ballon,
non, mais ce qui se passe ce soir, c'est qu'il y a des regrets, quoi. Parce que Saúl a marqué le premier but de l'Espagne. Il fait un match superbe. Il a joué 0 seconde, mondial. Asensio, il était pas titulaire au mondial. Et franchement,
Asensio,
quand tu vois la
manière mondial.
Quand tu vois les joueurs
quand il a joué, il faisait peine à voir.
Mais exactement,
bah oui,
donc c'est pas
oui,
les mêmes
pas
joueurs
aussi.
Il y a
pas d'entraîneur sur le banc. Bah oui, c'est ça, c'est terrible. Non mais là les gens sont contents. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de regrets en disant mais franchement, on avait quand même des joueurs pour faire un petit peu mieux que ce match horrible en 8e contre la Russie, quoi.
Alors, il y a d'autres matchs.
3e minute, 5-0 pour la Croatie, pour l'Espagne.
Ouais, c'est quand même assez lourd, quoi. T'as le finaliste de la Coupe du monde, t'es en train de se faire fesser devant tout le monde. C'est
bon, après
ça me laisse un peu perplexe.
L'attaquant de la Croatie aujourd'hui, c'était Santini. Donc s'ils ont un attaquant, comme dit Fred, de classe, je pense qu'au début du match, déjà, la Croatie mène 1-0.
Voilà. Rome n'aura jamais une occasion de régler ses comptes avec Caen.
Enfin, mais
il a laissé beaucoup de regrets.
Ivan Santini, il a quand même...
Ils ont raté deux occasions incroyables.
J'ai la compo sous les yeux, là. Juste derrière lui, t'as quand même Perisic, Modric, Kovacic.
Mais oui, mais
il y a quand même des mecs pour lui donner des ballons.
Mais exactement, mais qui doit marquer les...
Et Rakitic qui a une occasion, et t'as Perisic qui a une grosse occasion aussi.
Il y a 5-0, c'est un score assez incroyable.
Non, mais
entre une magnifique sélection, on le sait, même si elle a raté c'est le paradoxe, c'est incroyable. Elle a raté ses 3 dernières phases finales, et entre les phases finales, elle fait des matchs où à chaque fois on est obligé de dire que c'est la meilleure équipe d'Europe.
Fred, à tout à l'heure, tu nous appelles dès qu'il se passe un truc.
C'est fou.
Daniel, d'autres matchs ce soir. Sache que la Belgique mène actuellement 2-0 en Islande après 65 minutes, début de Lukaku et Hazard sur penalty. Qu'est-ce que j'ai encore à vous donner? Je peux vous dire que la Bosnie et l'Autriche en sont à 0-0 après 65 minutes.
Ah si, il faut absolument que tu nous parles de le choc du soir quand même.
San Marin-Luxembourg?
Ah bah oui, bien sûr.
3-0 pour le Luxembourg. Tu sais qu'ils progressent, les Luxembourgeois, en Coupe d'Europe.
Les Luxembourgeois, c'est en train d'aller mettre 3-0 à Saint-Marin.
Ouais. Bon, et alors, il y a une compète pour toi. Je suis sûr que ça t'a totalement échappé, Daniel. Je vais t'en parler dans quelques instants. Juste avant, permettez-moi de vous dire qu'il y a un match amical également. Ce soir, entre l'Angleterre et la Suisse. Pas mal, l'Angleterre-Suisse. Hein. On joue depuis 53 minutes 0-0. Et il y a une compète pour toi, Daniel.
1-0 pour l'Angleterre.
Figure-toi que dans la zone CONCACAF.
Ah bah oui, ma zone.
Dans ta zone, on a lancé une Ligue des Nations de la CONCACAF. La même que nous.
Que fait mon équipe?
Mais en version CONCACAF. Et là, figure-toi, mon petit Daniel.
Ouais. Là, il y a des bons matchs.
Non, mais là, il se passe des trucs incroyables. Parce que, donc, toutes les petites îles, là.
Ouais, mais bon,
elles jouent
les
unes contre les autres.
Ah,
hier, par exemple, t'avais Aruba, Bermude.
Moi, c'est Trinité, moi.
Mais ils jouent pas aujourd'hui.
Toi, c'est
les Grenadines.
Grenadines. Bah, écoute, ils ont joué un match, ils ont perdu, puisqu'ils ont fait.
Je t'ai dit, quand je reprendrai cette fédé, je nomme Jérôme Rotten.
Je te vois bien à Grenade, toi.
Ils ont perdu 2-0 contre le Nicaragua.
Mais
Daniel, sinon, hier, Haïti a battu Saint-Martin 13-0. La Ligue des Nations.
Moi, je le vois bien à Grenade.
Ils ont battu Saint-Martin 13-0.
Mais Saint-Martin,
la version hollandaise, c'est la partie hollandaise de Saint-Martin.
Et Curaçao, ils font quoi?
À Curaçao, ils jouent aussi, hein, Curaçao. Ils ont battu Grenade 10-0.
Après la tempête de l'année dernière.
Ah ouais, ils ont une belle équipe, hein. Ouais. Ça joue bien.
Et les scores de dingue, quand même.
Ah non, mais c'est génial.
C'est sacré compète.
Cuba a battu les Turcs Ankaïkos 11-0. Donc ça, c'est du foot. Les mecs qui jouent en district ici, ils sont là-bas, ils sont internationaux.
C'est quoi? C'est les employés des hôtels?
Bah ouais,
pas les îles Grenadines, quoi. C'est les îles Grenadines, toi.
Ouais, Saint-Vincent, les Grenadines.
Ben non, c'est Grenade.
Non, Grenade, c'est pas pareil. Grenade, c'est une île. D'ailleurs, il y a eu un coup d'état à Grenade dans les années 80, sache-le. Ouais. Intervention américaine sur place et tout. Et Saint-Vincent-les-Grenadines, c'est un petit archipel qui est au-dessus. C'est
ça. Je le verrais plus à Grenade, moi,
Daniel. Non, Saint-Vincent-les-Grenadines, c'est très beau. C'est,
ouais. Bon. Puis ils ont pris une pilule, ils ont besoin de toi, là.
Messieurs, on va parler de Platini. Dossier de l'after ce soir. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio, bien sûr. Platini parle, c'est demain dans Transversal et tout de suite dans l'after. Alors, il dit, Michel Platini, pour lui, le football de club, on a entendu un petit extrait, que le football de club est au-dessus du football des nations. Il étaye un peu son propos, il dit, voilà, il parle pas de son expérience de joueur, hein, parce que lui, finalement, il a plus brillé avec... Platini, il a pas brillé spécifiquement dans la Coupe d'Europe des clubs champions.
Il a fait une finale, il en a gagné une, entre les deux, il a gagné une Coupe des Coupes.
Oui, ouais. Non, mais il y a le VSL, notamment.
Trois années de suite, il a gagné une Coupe d'Europe.
Attends, mais Daniel, laisse-moi finir.
3, 4, 5.
Je savais très bien que tu allais me répondre ça. Enfin, nous, Platini, ce qu'on retient avant tout.
Ah, c'est équipe nationale.
C'est pas le Ezel et les Coupes des Coupes.
Parce qu'à l'époque,
on suivait moins le foot étranger. C'est le football des nations que Platini a marqué en France.
Oui,
d'accord.
Oui, mais c'est une affaire.
Ouais,
en fait, c'est une affaire
du juste.
C'est une affaire de diffusion. Parce qu'à l'époque, là, aujourd'hui, un Barça, Bayern, tout le monde le regarde. À l'époque, on regardait les équipes françaises en Coupe d'Europe.
Et
tous les matchs ne passaient pas à la télé.
Et les finales, quand même. Les finales de Coupe des Champions, on les avait.
Et les finales. Je crois qu'il y a eu un effort en 83, le match retour de la demi-finale de la Juve et qui avait dû jouer contre une équipe polonaise, peut-être Lodz, un truc comme ça. Je crois que ça avait été diffusé. Et la finale, oui, les finales étaient diffusées. Elles faisaient pas des audiences.
Gornik Zabrze.
Énormissime. Mais après, tous les autres matchs, on les voyait pas. Et puis, on avait qu'une toute petite fenêtre sur les championnats étrangers. Donc oui, tout était focalisé sur les équipes nationales. Après, sur la question du soir, que d'ailleurs, j'avais voulu aborder la semaine dernière, on s'était dit qu'on reviendrait dessus, donc l'occasion a été donnée par la passe décisive de Platini. Il y a un mécanisme qui me semble être à la base de sa réflexion et qui est en fait indéniable. Ce qu'il dit est incontestable à partir du moment où l'arrêt Bosman a complètement produit ses effets. C'est-à-dire, on va dire, une dizaine d'années après 95, quoi. À partir du moment où dans les clubs, tu as pu rassembler les meilleurs joueurs, que t'as construit une élite.
Attention Daniel, il faut être précis sur ce qu'on dit. On parle des top clubs et des top nations. On va pas comparer Saint-Marin, Luxembourg on parle là du top 10 des clubs, du top 10 des nations.
Tu as pu avoir les meilleurs étrangers dans les meilleurs clubs, que en plus tu as créé une compétition qui est devenue de moins en moins démocratique et donc de plus en plus élitiste, où tu as rassemblé les meilleurs joueurs dans les plus gros clubs, dans la plus grosse des compétitions, que tu as enlevé une Coupe d'Europe pour tout rassembler au même endroit. Après, c'est pas forcément que les équipes nationales ont baissé. C'est tout simplement que les équipes de clubs ont augmenté.
Donc toi, t'es d'accord avec Platini?
Bah oui, parce que la concentration des talents, elle est beaucoup plus importante. À l'époque, t'avais les mecs de ton pays qui jouaient, t'avais deux étrangers, et puis voilà. Là aujourd'hui, tu prends la plupart, c'est des armadas quoi. Les équipes, elles sont blindées de joueurs extraordinaires. Ça me paraît évident en fait, sa réflexion.
Jérôme, qu'est-ce que t'en penses toi?
Bon, écoute, je peux pas vous contredire là-dessus. Bien sûr que depuis des années, le football en club a évolué avec beaucoup d'étrangers, beaucoup de dans les top clubs, tu retrouves les meilleurs joueurs, tout simplement. Donc, t'as juste à prendre le Real Madrid qui gagne donc trois fois de suite la Ligue des Champions. Tu regardes le 11 du Real Madrid. Bah ça fait rêver pas mal de pays quoi. Donc ça me paraît logique. Après
il y a
un facteur.
Après, c'est pas tous les clubs mais au moins une dizaine de clubs.
Non, il y a un facteur. Laisse-moi finir Gilbert. Laisse-moi finir.
Intrinsèque.
Non mais
le jeu. Tu vois la production de jeu.
Ah bah la production de jeu, même pas photo.
Mais
là.
Regarde l'Espagne championne du monde par exemple.
Non mais de toute façon, comment tu peux me dire qu'une sélection peut être plus forte qu'une équipe de club, sachant qu'en club ils sont au quotidien, donc toutes les semaines, tous les jours tu répètes des choses. Donc
très bon argument. L'Espagne championne du monde.
Mais il y a des exceptions, mais bien sûr. Mais de toute façon,
comme l'Allemagne 2014, ils ont bossé ensemble pendant des années. Ils ont réussi effectivement à avoir une production.
Le Brésil 70. quand on remonte
mais,
plus loin.
Non, 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 mais attention. Mais,
Gilbert, je viens de te dire que c'est à partir de 2005,
pas, voilà,
les années 2000, le tir avant.
Bah ouais, je peux remonter avant si j'ai envie.
Non.
Mais alors avant, en revanche, ce sont les équipes nationales qui sont plus fortes.
Je pense. Et alors déjà,
mais, toi, t'as dit avant 2005.
Par rapport à
partir au moment où Bosman produit non, ses effets.
Genre le Grand Milan des années 90, par exemple.
Pour moi, c'est arrivé ce changement-là où t'as vu où déjà la Champions League a pris un pas important sur les équipes nationales, ouais, mine de rien. Ouais. C'est à la fin des années 90, ça a commencé là. Et après, tu sentais qu'il y avait une vraie évolution. Alors je te dis pas qu'avant ça avançait pas. Le football a toujours toutes les époques. Les joueurs techniques sont sortis du lot. Maintenant, le côté physique a pris le dessus aussi, et que l'intensité rend les matchs plus spectaculaires, rend les matchs plus durs forcément. Et ça, c'est arrivé en fin d'année 90, et puis jusqu'à aujourd'hui où le foot a continué à évoluer. Il y a juste pour te
Fred
revenir.
Fred nous appelle. Il y a but de l'Espagne, Jérôme. Ah,
encore.
6-0 les amis Olaticos, wow. 6-0. 6-0, Asensio qui fait une passe à Isco, frappe d'Isco dans la surface, c'est 6-0, enfin c'est du délire, ce qui est en train de se passer, c'est bizarre pour la Croatie qui coule totalement en défense, enfin là il voit plus de ballon, ça va dans tous les sens, l'Espagne se fait plaisir, et attention parce qu'il reste une petite vingtaine de minutes quoi, nous jouons la 72e minute.
Avant la Coupe du Monde, à qui ils ont mis une tannée comme ça?
Ils ont
mis une grosse tôle comme ça, une équipe, l'Espagne avant la Coupe du Monde, je me souviens plus, dans un match.
Non, moi je trouve qu'ils rataient beaucoup, au contraire, et que ça.
Ouais,
ça
il y avait quelques.
Ils ont mis une tôle avant la Coupe du Monde, dans le match amical.
Là, tout de suite maintenant, je me souviens plus quoi, non vraiment.
Ah, okay.
Mais là, en tout cas, bon, c'est vrai que ça fait plaisir. Et il y a cette chose ce soir.
Argentine.
C'était à 6-0, mais j'y étais en plus et je l'ai commenté.
C'était au mois de mars.
Oui, c'était.
J'ai dit avant la Coupe du Monde, Jérôme.
Mais non, mais je croyais que c'était
les
matchs de préparation.
Oui, non, mais moi j'ai croyé que c'était au mois de mai. Les matchs de préparation. Non, mais alors.
Dis-moi, profitons-en que tu sois là.
Parce qu'il y a deux ans aussi, ils ont mis une tannée.
Dans le débat Platini, tu dis quoi, toi, vu l'Espagne, Fred, entre foot de club et foot de sélection? Puisque on disait que l'Espagne était peut-être un.
C'est la Barça, Atlético,
une exception.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Non, mais oui, mais l'Espagne a produit peut-être le plus beau jeu de sélection des 15 dernières années. Enfin, de l'année générale.
Je trouve c'est incomparable. Enfin, je trouve ça incomparable. C'est tellement rien à voir, le football de club et le football de sélection. Enfin, franchement, je saurais pas comment me prononcer là-dessus, quoi. Je trouve que c'est un débat.
Enfin, pour une fois, Fred Arwell n'a pas d'avis.
Ben non, non, mais vraiment, parce que ça me paraît tellement différent.
Ça arrive.
Que tu.
Ah, ça arrive d'être largué, hein.
Ben, c'est que c'est-à-dire que je trouve que c'est incomparable.
Ah ben oui, donc t'es vraiment
mais non, mais en fait, faut pas se casser la tête. Il y a une tendance qui est absolument évidente. Le football des équipes nationales a très longtemps dominé puisque tu avais là la concentration des meilleurs joueurs. Tu faisais ton puzzle, comme t'as dit, Brésil 70, l'Allemagne ensuite, l'équipe des Pays-Bas. En plus, il y avait une dominante des clubs à l'intérieur de cette sélection, plus un ou deux joueurs très forts. T'avais les Pays-Bas, t'avais une ossature Ajax, plus quelques mecs du PSV, de Feyenoord, t'avais le patchwork. L'Italie, c'était Juve dominante. Hein. Voilà, forcément que les équipes nationales étaient très fortes à ce moment-là. Tu as effectivement des équipes de clubs qui, sur ces périodes, ont.
Bah après, t'as l'Espagne, il y avait 6 mecs du 6 ou 7 mecs du Barça, ou 8, même. Voilà. Moment, il y en avait 8 en titulaire, quoi. Donc,
après, t'avais les équipes de clubs qui ont marqué l'histoire, Ajax, Bayern, le Grand Milan. Mais à partir du moment où tu ouvres les portes des clubs à tous les joueurs étrangers que tu veux, et que le business devient de plus important, que les revenus de ces clubs augmentent, que ces clubs peuvent acheter qui, en gros, pas qui ils veulent, mais enfin, ont des moyens beaucoup plus importants pour acheter des vedettes, ben forcément les clubs deviennent plus forts. Et les clubs sont devenus plus forts. À l'intérieur d'une énorme compétition comme la Ligue des Champions, ces clubs avec des moyens démesurés, c'est évident qu'en matière de jeu, en matière de talent, la concentration aujourd'hui, elle est dans cette Ligue des Champions
qui
domine tout, en fait.
Fred, et ensuite Johan au 32-16.
Bon, oui, il ne peut même pas y avoir de débat.
Ce que dit Daniel, mais en fait le débat est compliqué, mais simplement le constat que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'équipes ultra compétitives en club qu'en sélection.
Ben bien sûr.
Voilà.
Mais c'est, je sais pas si c'est meilleur. Les grands clubs, il y a que des bons joueurs partout. Il y a même 22 joueurs. Il y a des groupes de 22 qu'avec des vedettes.
Non, attends. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu peux pas mettre de côté. C'est quoi le foot de sélection pour vous? C'est les matchs là comme ça de préparation de Ligue des Nations ou c'est sur les grandes compétitions? Parce que si c'est sur les grandes compétitions, je suis désolé, mais que ça soit l'Euro ou la Coupe du Monde, le niveau il s'élève parce que les joueurs ont un temps très long pour se préparer déjà. Donc en un mois, tu arrives à modifier des choses et à créer une ambiance de groupe. Après, physiquement, ils se repréparent pour cette compétition, ce qui a été le cas sur la Coupe du Monde. Donc tu arrives un petit peu dans les mêmes conditions que sur l'année en club et en Ligue des Champions, par exemple, où ça devient un objectif. Alors après, la durée et la période de ces compétitions, elle est plus courte, bien sûr, que sur une Champions League qui dure 10 mois. Mais ça se rapproche sur la Coupe du Monde, sur les top clubs, tu disais, ou les top sélections. Ah, c'est quand même aujourd'hui, t'as beaucoup de grands joueurs dans toutes les lignes, dans beaucoup de sélections, quoi.
Johan, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Salut Johan. Ouais. Dis-moi Johan, tiens, je te fais réagir à un petit sondage qu'on a lancé là sur le compte @afterrmc. Si demain il y avait un match entre l'équipe de France 2018, championne du monde, et le Real Madrid 2018, champion du monde, champion d'Europe, qui gagnerait? Et 56% des votants disent la France.
Mais en 98.
Là, 2018.
Ah, 2018. Ah. Ouais. En 98, la France est championne du monde et le Real est champion d'Europe.
J'ai pas compris ton truc.
L'équipe de France 2018, champion du monde, joue le Real Madrid qui est champion d'Europe.
2018, champion d'Europe.
Je peux répondre rapidement.
Laquelle équipe
gagne? 56% des votants disent.
Non mais
la France.
Moi je pense
que Johan réagisse en premier.
56. Ouais. Bah c'est pas beaucoup, sachant que la plupart sont des Français supporters de l'équipe de France. Donc en fait non, évidemment que je pense que c'est le Real.
Johan, qu'est-ce que t'en penses?
Non, moi je pense que c'est l'équipe de France, ouais. Mais évidemment. Et d'ailleurs, pour continuer ce que vous disiez tout à l'heure, en Coupe du Monde, il y a, en termes de qualité pure dans les joueurs, il y a au moins autant de bons joueurs qu'en Ligue des Champions, voire même plus, puisqu'on a des joueurs d'autres pays qui viennent. Donc, globalement, il y a pas de qualité en moins en compétition internationale, notamment à la Coupe du Monde.
Regarde la qualité de jeu dans cette Coupe du Monde par rapport à ce que tu vois en Ligue des Champions, c'est le jour et la nuit déjà.
Ouais, mais la Ligue des Champions, c'est pas le foot commun, c'est le foot d'écurie surdopée avec des mecs qui ont financièrement. Bah,
c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que le foot de club est supérieur, parce que comme tu dis, ce sont des écuries.
Non, je vois ce que tu veux dire.
Les moyens.
Toi, tu trouves un côté un peu originel au foot des nations que tu préfères en fait, c'est-à-dire là, c'est.
C'est pas que je le préfère, c'est que ça ressemble plus au foot réel. Si demain on arrête d'avoir des.
Non mais
des
ça c'est pas le débat ça.
Non mais c'est intéressant. Bah,
le débat c'est si je préfère, mais ça n'a rien à voir déjà.
Non, c'est pas je préfère, c'est qu'en sélection t'as pas le moyen de trouver un remplaçant quand tu l'as pas dans ta sélection. Alors qu'en club, et vous parlez des clubs, mais on parle pas des clubs, on parle des 15 mecs qui jouent la Ligue des Champions tous les ans et qui vont tous les ans en 8e. Ces clubs-là, ils représentent pas le foot au global. On est bien d'accord. Donc la sélection, effectivement.
Je comprends pas ta réflexion en fait. Le débat est-ce que le foot de club, donc est-ce que la Ligue des Champions, à partir du gratin que tu as dès les huitièmes de finale, c'est meilleur en qualité de jeu, en qualité de talent individuel technique que ce que tu vois en Coupe du Monde? Évidemment
que oui. Technique, non? Bah non. Je suis pas d'accord. C'est les mêmes joueurs.
Prends tous les huitièmes de Ligue des Champions. Prends les huitièmes de Ligue des Champions. Et mets en face les huitièmes de la Coupe du Monde, tu vas rigoler.
Non mais attendez, moi je veux défendre un peu Johan, parce que je comprends ce qu'il veut dire. Prenons le cas de Cristiano Ronaldo. Bon, Cristiano Ronaldo avec le club du Portugal, il n'est pas entouré comme il l'était au Real.
Exactement.
Mais Cristiano Ronaldo, le coup franc qu'il te met contre l'Espagne à la Coupe du Monde. Bon bah ça reste un grand geste.
Je comprends pas en fait.
Ouais, non, moi
je comprends pas votre réflexion en fait.
Là, t'es hors sujet.
Mais oui.
Permettez-moi d'aller au bout si. Avant de dire que je suis hors sujet.
Donc bien sûr que Ronaldo, il est capable de faire des gestes.
Toi t'es fantastique. T'aurais été prof de français. Tu lisais deux lignes de la rédaction puis tu es hors sujet.
Mais on a compris. On a compris ta réflexion.
C'est génial.
Vas-y.
Souvent, ça suffit.
Donc, Cristiano Ronaldo, il est capable de faire ce geste-là avec le Real, mais aussi avec sa sélection. Mmh. C'est ce que te dit.
La qualité du Portugal, c'est pas comparable au Real, quand même.
Mais il te parle de qualité de joueur, lui, déjà.
Mets à côté n'importe quelle équipe qui joue les huitièmes de la Ligue des Champions, c'est pas comparable.
Gilbert, c'est ça la question, c'est de savoir si le Portugal est supérieur, par exemple, au Real Madrid.
Ou même une équipe qui est en huitième de Coupe du Monde, tu prends les équipes qui sont en huitième de Ligue des Champions, c'est.
Allez, Johan, t'as le mot de la fin, vas-y.
Ouais, si vous êtes sûr à 100% que je prends le Portugal qui a gagné en 2016. Si vous êtes sûr à 100% que il est moins fort que l'équipe du Real de Madrid, OK, si vous voulez. Moi, il faudrait avoir une confrontation directe pour en être sûr.
Non,
je suis désolé.
Non, mais c'est... on peut pas en être sûr à 100%.
Mais on parle de qualité de jeu. Tu vois bien que le jeu qui est proposé en Ligue des Champions, c'est le jeu qui domine, c'est le jeu qui dessine les tendances, c'est le jeu qui fait que t'es devant ta télé. Ce sont les meilleurs matchs en qualité, les plus beaux gestes, les plus beaux buts. Tous les plus grands joueurs, ils sont en Ligue des Champions, voyons.
Alors maintenant, il y a autre chose.
C'est pas en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, un match sur deux, tu t'emmerdes.
Ouais, la seule grosse différence.
Si tu me dis que l'émotion, parce que t'es impliqué à travers ton équipe de nationale, évidemment, mais ça n'a rien à voir. On parle de football.
Par contre, c'est vrai que moi, je voulais en venir là-dessus, Daniel, sur l'émotion, sur ce facteur-là que tu peux pas négliger en sélection. Parce que t'as des mecs qui peuvent être des très bons joueurs en club, mais qui se transcendent en sélection. Parce que ce maillot fait que, et souvent, ça arrive sur les équipes
d'Amérique du Sud, par exemple.
Ben oui, non mais t'as des joueurs comme ça où ils sont faits pour briller en sélection. Et plus qu'en club où on leur demande au quotidien peut-être des choses et ils arrivent pas à les mettre, là avec cette émotion là, ils se transcendent plus facilement. Donc ça devient des meilleurs joueurs qu'en club. Mais ça c'est pas tous les joueurs hein, c'est
Yoann, merci c'est en tout cas d'avoir défendu avec conviction ton point de vue.
Dans ce que tu dis, il y a aussi justement tous ces joueurs qui arrivent très bientôt même pas dans titulaires en club et qui sont titulaires dans l'équipe nationale. Donc le niveau, la concurrence, les tactiques, les techniques, c'est beaucoup plus élaboré en Ligue des Champions, c'est un football d'élite. Alors après si on me dit j'ai plus d'émotion quand je regarde ça que ça, c'est que l'argent, ça c'est autre chose, c'est pas le débat.
6-0 pour l'Espagne face à la Croatie, on retrouve Fred Hermel dans quelques instants bien sûr, et puis nous on va parler de l'équipe de France parce que Jérôme n'a encore rien dit après le match France-Pays-Bas de dimanche soir, et donc ça fait 48 heures qu'il n'en peut plus là. C'est pour tout de suite.
Il n'a pas fait 1000 émissions en 30 ans.
Bah il s'est préservé pour l'after de ce soir. Attends, allez, à tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à millionnaire avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, bien sûr. Je rappelle que tout à l'heure, après 23h, on débriefera les matchs internationaux du soir. Je rappelle qu'on vous attend avec vos équipes de rêve et vos équipes cauchemars de l'Olympique de Marseille ce soir. On vous délivrera ça tout à l'heure à 23h30. On en a déjà reçu une bonne centaine, hein, dans les deux sens. Équipe de rêve, équipe cauchemar. Donc, il y a débat. Et on tranchera tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est l'avis de Jérôme. Jingle Rotten, tout de suite.
Et c'est moi qui achète le pain tous les jours. C'est entre 1€ et 1,10€. Bon, après, ma notoriété fait que des fois, il me l'offre.
Tous les jours. Tu veux faire croire que tu l'achètes tous les jours, le pain?
Ben oui. Ben pourquoi? Je vais faire les courses. Ben oui, écoute, je vis normalement. Des fois, c'est pas facile. Mais je vis normalement. Bon.
Donc, tu voulais parler de l'équipe de France, parce qu'on t'a pas entendu depuis France-Pays-Bas.
J'ai fait Team Duguay hier, on en a parlé un petit peu quand même, mais je voulais mettre un point important en place, parce que j'étais au Stade de France dimanche soir. Quand t'es au stade, tu t'aperçois beaucoup plus de choses en termes de bloc équipe, d'équipe, comment elle fonctionne, même le ressenti, le groupe, comment il vit et tout. Tu vois, il y a des choses que tu peux pas voir à la télé. Là, tu te rends compte de beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai découvert une équipe de France, bon, forcément avec beaucoup de confiance, de la sérénité, le fait de vouloir communier avec le public cette victoire en Coupe du Monde, ça c'est indéniable. Mais j'ai surtout vu une équipe de France très forte en première mi-temps. C'est un modèle ce qu'a fait l'équipe de France. Alors je parle pas de l'adversaire hein, qui était pas forcément dans le top niveau mondial, et ça se voit par rapport à...
Ils ont été décevants, d'ailleurs.
Exactement, mais l'équipe de France, quand tu prends comment elle a fonctionné, elle m'a surpris, parce que elle était capable de faire des très bonnes choses avec le ballon, de mettre le pied sur le ballon, de faire pas mal d'attaques placées. Tactiquement, quand certains émettaient des doutes sur le travail tactique de Didier Deschamps, encore une fois, c'est pas pour faire l'avocat de Didier, mais quand tu vois l'équipe de France fonctionner, tu vois la permutation entre les joueurs. J'ai vu des choses digne d'une grande équipe vraiment, et que c'est pas anodin qu'ils soient champions du monde comme ça. Déjà parce que ils ont toujours cette rage de vaincre, cette envie de gagner les matchs. Tu le sens, ils transmettent ça à ceux qui rentrent, ceux qui découvrent. Je parlais hier avec Benjamin Lancombe qui était l'invité de Team Duga. C'est exactement ça qu'il a ressenti, cette haine de la défaite. Didier Deschamps là-dessus, il a tout réussi avec ce groupe, et c'est quand même un gage de réussite. Je pouvais émettre quelques doutes sur la suite parce que je me suis dit ça passera certainement par des changements si l'équipe de France veut continuer à progresser, à gagner.
Ah, et
mais,
alors ?
Mais non, pas forcément. Pas forcément. En fait, je me suis pas trompé parce que j'attendais de voir, mais vu l'évolution,
est-ce que ça prend ? Il y a pas deux, trois postes où tu te dis, on peut faire mieux.
Non, parce que après oui, dans un deuxième temps, c'est pour ça. Donc je voulais d'abord avant tout mettre en lumière cette équipe de France. Alors on en parle en bien forcément depuis, mais des fois on émet des doutes sur la qualité de jeu, sur ceci cela, à juste titre, hein, le match de l'Allemagne et tout ça, mais sur ce match des Pays-Bas, surtout la première mi-temps, franchement, elle est très bonne, elle est très forte. Donc voilà, après pour continuer cette progression, il y a à mon sens pas beaucoup de choses à changer, mais à trouver quelques alternatives. Didier Deschamps, il doit s'appuyer là-dessus. Il le fait rarement encore parce qu'il s'appuie vraiment sur ce collectif avec des valeurs de combat, des valeurs fortes, des joueurs leaders. Par exemple, je te prends l'exemple de Giroud qui a été critiqué, qui sauve son match. Il faut pas se leurrer. Il sauve son match des Pays-Bas avec ce but, le deuxième, parce qu'il déjà il devait sortir. Dernière action, centre, et puis là ce geste de folie. Moi, j'aime voir Olivier Giroud comme ça parce qu'on l'attend buteur dans un match où, mine de rien, quand certains te disent Olivier Giroud, il sert au collectif. Eh ben, je suis pas certain qu'en première mi-temps, par exemple, ça a pas empêché l'équipe de France, comme je te disais, d'être très bonne avec un Olivier Giroud très moyen qui a pas servi à grand chose dans le jeu. Il a pas senti les centres, il y en a eu beaucoup. Il a pas senti trop les déviations. Il en a fait une de bien dans les pieds de Griezmann au bout d'un moment en une touche, mais c'est tout. Il a perdu pas mal de ballons sur des remises qui en général sont point fort. Donc ça, il faut trouver une alternative à Olivier Giroud. Le laisser, oui. Parce qu'il est important pour le collectif, pour le truc.
Et mais alors pour toi, c'est quoi l'alternative ?
Bah, l'alternative doit arriver, c'est Didier Deschamps.
Mbappé en
9 ? Ça peut être Mbappé en 9, mais dans ces cas-là, il faut trouver un remplaçant Mbappé côté droit. Ça peut être un autre style qu'Olivier Giroud. T'es pas obligé de jouer avec un joueur de pivot. C'est à Didier Deschamps de trouver. Je pense qu'il a pas encore trouvé la bonne formule de ce côté-là. Après, le poste d'arrière droit, bah, il me laisse un petit peu perplexe. C'est vrai que Pavard, on a mis en avant, et à juste titre, la bonne découverte à la Coupe du Monde, ce fabuleux but contre l'Argentine. Mais la marge de progression, est-ce qu'il y en a vraiment une énorme? J'en suis pas certain. Donc ça, il va peut-être falloir, si l'équipe de France doit continuer à avoir le jeu en main et proposer un jeu séduisant, peut-être que Benjamin Pavard, par moment, il va falloir changer. Alors Sidy Bé, en revenant de blessure, peut-être.
Sidy Bé au top, pour toi, il est au-dessus?
Je pense, ouais. Je pense, avec la confiance et tout, je pense qu'il est au-dessus. Et puis le cas Blaise Matuidi. Alors bon, là je suis bien placé pour en parler parce que c'est un poste où j'ai évolué longtemps dans ma carrière. Il donne une balle de but sur une erreur de relance des Pays-Bas, mais il y a trop de déchets dans le jeu sur des attaques placées. Tu veux un peu plus de vista dans le jeu, et je pense que quand l'équipe de France comme ça est maître du jeu, comme ça a été le cas en première mi-temps avec un Paul Pogba, avec un Kanté qui sont rayonnants vraiment, et franchement, tu mets un truc, tu poses une question à savoir qui est le plus fort aujourd'hui, quel est le meilleur milieu de terrain en sélection, plus fort que N'Golo Kanté et Paul Pogba. À ce niveau-là, eh ben, franchement, c'est pas facile d'en trouver. En tout cas, ils sont rayonnants. Et quand ils sont comme ça, ils sont maîtres du jeu, eh ben, là, j'ai envie de voir un joueur encore un peu plus technique, alors qu'il va faire autant d'efforts que Blaise, parce que Blaise, il en fait énormément, et ça, il faut pas lui retirer, qu'il est pas à son poste, mais il fait des bonnes choses quand même, mais, voilà, une petite doublette, un petit Thomas Lemar qui revient un petit peu d'où il y était, au bout d'un moment, et il a du mal à revenir. Voilà. Donc, c'est tout.
Tu vas prendre la place de qui, Thomas Lemar, pardon?
Tu sais que tu m'as fait un avis plus long que Daniel, là?
Non, pas du tout.
Ah, si.
Mais je voulais faire un...
Mais c'était bien.
Je voulais, bah, je pense.
Est-ce que t'es d'accord, avec Daniel?
Bon, nous, on a tout dit sur l'équipe de France depuis trois jours.
Dit,
j'ai
écouté
Jérôme. De toute façon, sur l'équipe de France,
vaut mieux m'écouter.
Exactement.
Voilà.
Donc, en fait, on peut passer à autre chose.
Merci, Daniel.
Voilà.
Merci, Daniel. Bah,
ça me fait plaisir quand il a rien à dire. Écoute, si, qu'il acquiesce tout ce... Bah, si, bah, c'est bon, arrête-toi, là.
Exactement.
Bon. Fred nous appelle. Fred, c'est fini entre l'Espagne et la Croatie?
Et oui, et l'Espagne n'a pas marqué de septième but. C'est quand même la formation de cette fin de match.
Ils ont failli. Hein.
Quelle déception.
Ils ont failli. Oui, oui, parce qu'il y a eu une très belle frappe de Thiago Alcantara et un très bel arrêt, en tout cas détourné la balle de Kalinic. Donc 6-0 pour l'Espagne. Je vous rappelle les buteurs. Saúl Ñíguez à la 24e, Marco Asensio à la 34e. Le même Marco Asensio qui obligeait Kalinic à faire un contre son camp à la 35e. Rodrigo Moreno à la 49e. Ramos à la 57e. Isco à la 70e. Bah oui, une Espagne, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais une Espagne magnifique qui ne fait que donner des regrets. Ah, s'il y avait eu un entraîneur sur le banc pendant la Coupe du Monde.
À tout à l'heure Fred, pour débriefer tout ça, je vous signale que la Belgique a gagné en Islande 3-0. L'Islande qui fait partie du groupe A de la Ligue des Nations quand même. Hein. Donc c'était suite à son bon euro. Et puis la Bosnie mène 1-0 face à l'Autriche dans le temps additionnel. Un but de Dzeko, comme souvent. Et puis vous signalez que la Hongrie a battu la Grèce il y a quelques instants. Pas de Mitroglou, évidemment, vous savez qui s'est blessé. Mais toujours la présence du magnifique Mantalos. Joueur de l'AEK Athènes, un joueur frais, vous le savez, qu'on verra en Ligue des Champions cette année. Bon, puisque Daniel n'a pas trop d'avis, moi je suis plutôt d'accord avec
Jérôme. Sur l'équipe de France, j'en ai eu 150 depuis dimanche, des amis. Mais attends, vous n'étiez pas là.
Je t'engueule pas.
T'énerves pas.
Mais c'est bien
tendu
aussi.
Ce soir, celui-là.
Mais c'est bien aussi de le laisser s'exprimer sans le couper pour une fois. Il pourrait me dire merci.
C'est tellement rare que du coup.
Franchement,
je crois que je suis étonné.
Ça fait un an. Ça doit faire un an, en fait. Mais encore même plus. Au début.
C'est le mec qui continue, il se dit, bon, la condition qui va me couper, il continue encore, puis au bout de 5 minutes, il dit, bon, allez là, maintenant j'arrête quand même. Exactement. Dans quelques instants, on va parler de l'éventualité de la 3e Coupe d'Europe. Ce sera l'avis de Daniel. N'oubliez pas, après 23h, l'OM au programme, les matchs internationaux débriefés par nos drôles de dames. Et puis le quiz, inscrivez-vous, 32-16.
RMC, Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten. Tiens, il y avait également l'équipe de France Espoir ce soir qui jouait, messieurs, face au Luxembourg. Alors, ils sont déjà qualifiés, les Espoirs, vous le savez, pour la phase finale de l'Euro, pour la première fois depuis 12 ans. La France a battu ce soir le Luxembourg 2-0, début de Aouar et Bamba. Ça se passait à Strasbourg, dans un stade mythique. Attention, Brian me signale que Mitroglou est rentré dans le match de la Grèce, donc finalement la blessure s'est déjà oubliée. Mitroglou est rentré, il a joué la deuxième mi-temps. Voilà pour la Grèce ce soir. Avis de Daniel, jingle Rio.
Daniel, il le dit, bon, il a répété un peu mes propos, parce que ça je l'ai dit il y a très longtemps.
Daniel souvent s'inspire des plus grands.
Bah là oui, c'est le cas.
Je donne les infos avant que tu lui donnes ton avis. Il pourrait y avoir très bientôt le retour d'une 3e Coupe d'Europe. Alors, on ne sait pas exactement sous quelle forme, mais l'UEFA s'y penche de très près. Ça pourrait être une 3e Coupe d'Europe à 32 équipes, ce qui ramènerait un total de 96 équipes en tout qui participeront aux Coupes d'Europe, entre Europa League, Ligue des Champions et cette 3e Coupe d'Europe. On n'a pas encore le détail, mais une Coupe d'Europe à 32, ça peut laisser sous-entendre des matchs aller-retour à élimination directe. 32, 16, 8, 4...
Il y a beaucoup de choses qui peuvent être sous-entendues et qu'on ne comprend pas tellement, en fait.
Et c'est une Coupe d'Europe qui, surtout, va naître vraisemblablement sous l'impulsion des petites nations qui ont du mal souvent à intégrer les deux autres. Donc alors, est-ce que ce sera une sous-Coupe d'Europe ? On n'a pas vraiment tous les détails de tout ça, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux à l'UEFA, officialisation dans quelques mois.
Il ne pourrait pas y avoir moins de clubs en Europa League, par exemple ?
Si, ils vont réduire le nombre d'équipes en Europa League. Donc,
alors,
effectivement.
Donc, Daniel a un avis justement sur le retour d'une 3e Coupe d'Europe, après les infos que j'ai données, que vous retrouvez sur rmcsport.fr. Daniel, on t'écoute.
Bonne idée ou pas bonne idée, en fait, c'est un petit peu compliqué. L'UEFA, j'ai l'impression qu'il cherche à chaque fois à avoir justement des bonnes idées, à innover. Alors, j'ai bien compris qu'on voulait enlever certains clubs d'Europa League. A priori, moi, la création d'une 3e Coupe d'Europe... je suis plutôt satisfait dans le sens où j'ai jamais vraiment compris pourquoi on avait abandonné l'ancienne formule qui était très bien de par nature.
C'était la coupe des
coupes. Le champion, celui qui gagnait la coupe.
Exactement.
Et ceux qui étaient en gros 2, 3, 4, 5, tout ce que tu veux ailleurs. Même à partir du moment où tu voulais mettre 2-3 équipes dans la Ligue des Champions, tu pouvais malgré tout prendre le 3e de tel pays, le 4e. Bon, c'est pas vers cette solution qu'on s'est orienté. Moi, j'aurais aimé que ce soit ça pour la création de cette 3e Coupe d'Europe. OK, c'est une bonne idée, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Si on doit mettre tous les petits pays et
toutes les équipes qui arrivent pas à intégrer les autres coupes d'Europe, bah ça va pas, je pense, nous concerner. À moins, je sais pas, ils vont venir chercher le sixième et le septième de notre championnat. Je sais pas. On verra, mais ça m'étonne. Donc ça peut peut-être concerner d'autres pays, auquel cas nous intéressera pas, auquel cas sera peut-être pas diffusé sur notre territoire, parce que sinon en plus embouteillage total, parce que je vois pas mardi mercredi étant archi blindé par la Ligue des Champions, le jeudi par la Ligue Europa avec une quantité de matchs de dingue, ils vont la faire jouer quand cette troisième Coupe d'Europe? Ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Donc on balance des idées comme ça à l'UEFA là. Impression il faut sortir du chapeau.
Ouais, moi je pense sans arrêt quelque chose. Tu sais ce qu'ils dessinent ? Ça va être une coupe d'Europe entre les clubs albanais.
Oui, je viens de le dire, Gilbert. Et donc ça ne t'intéressera pas et ce ne sera pas diffusé chez nous.
Bah, voilà.
Donc je pense que la bonne idée.
Mais si, ce sera peut-être diffusé, mais ça sera pas.
Pas chez nous, bah, ça sera pour les marchés, ouais, pour ces marchés-là, mais pas pour notre marché à nous.
Si, ça peut être acheté par des chaînes de télé qui veulent quand même les diffuser, ça fait du foot. Ouais, non, mais
oui, je pense que Dynamo Minsk, Dynamo Tirana, ça va intéresser du monde.
Tu verras que ce sera diffusé en France.
Oui, enfin bon, peu importe. Si
tu regarderas pas peut-être, mais ce sera diffusé.
S'il fallait qu'il y ait une bonne idée pour cette troisième Coupe du Monde, je pense que ça serait en enlevant... peut-être en rétablissant tout simement l'idée de la Coupe des Coupes, c'est-à-dire en mettant le vainqueur des Coupes nationales dans les pays.
Ouais, mais sauf que tu auras un problème.
Pourquoi ?
Bah, imagine-toi, par exemple, un club qui termine deuxième de son championnat.
Il préfère aller jouer la Ligue des Champions,
il va dire la Coupe des Coupes, j'en veux pas.
Plus lucratif. Évidemment.
Donc, mauvaise formule.
Non, c'est pas que c'est mauvaise formule. Le problème, c'est qu'il y a un décalage dans les dotations. On a voulu absolument tout axer sur la Ligue des Champions, faire une sorte de Ligue mondiale, quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, de plus grosse des compétitions. Mais on aurait pu avoir trois équipes pour l'Angleterre et pas la quatrième, deux équipes pour la France et pas la troisième, deux équipes en Italie et puis deux qui vont dans une autre Coupe d'Europe. Avant, c'était plus réparti. Tu avais des forces qui étaient plus réparties dans les différentes Coupes d'Europe. Mais je suis même pas en train de te dire moi que c'est une bonne idée dans cette formule ou quoi. Je suis juste en train de me demander qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec cette troisième Coupe d'Europe. Et j'ai l'impression que c'est plus, comme tu dis toi, pour intéresser les petits pays et auquel cas ça va pas nous concerner, parce que pour le reste, je vois pas une grosse équipe ne pas vouloir aller en Ligue des Champions si les dotations dans cette troisième Coupe d'Europe sont pas aussi importantes.
Attends, et si cette troisième Coupe d'Europe,
tout le monde va vouloir se frotter au meilleur parce que l'élite elle est là.
À des clubs moyens, je sais pas, imaginons, nous en France, là, on peut estimer qu'aller jusqu'au 5-6e, t'es en Coupe d'Europe, tu vois, entre Europa League, machin. Peut-être que cette troisième Coupe d'Europe, elle peut concerner des clubs qui vont terminer entre la 7e et la 8-9e place.
Oui, d'accord, mais au fond,
ça veut dire qu'une année, tu pourras avoir un Dijon en Coupe d'Europe, par exemple,
Au fond, ça sert à quoi ?
Tu vois ?
Au fond, ça sert à quoi ?
Bah, à faire kiffer la Coupe d'Europe, quoi.
Oui,
c'est tout. T'es Dijon, tu vas jouer contre des Albanais, t'as ton Coupe d'Europe.
Est-ce qu'une équipe aille jouer des matchs internationaux à droite à gauche et voilà.
C'est une sorte d'inter-toto amélioré, quoi.
C'est un peu tu démocratises à outrance la Coupe d'Europe en faisant faire des matchs, le dixième de Ligue 1 contre le dixième d'Italie ou le premier de l'Albanie. Mais au fond, quel sera l'intérêt de ça ? L'intérêt de la Coupe d'Europe
les matchs aller-retour.
À l'origine, c'est que tu avais le gratin de ton championnat qui allait se bagarrer contre le gratin d'autres championnats. C'est ce qui déterminait en fait ta puissance, la compétitivité de ton football. Pourquoi j'ai toujours été à ce point attaché à nos résultats en Coupe d'Europe et je déplorais quand ils étaient pas bons, parce que c'était la preuve qu'on n'était pas bon si tu brillais pas en Coupe d'Europe. Après, on s'est bagarré avec ceux qui voulaient pas vraiment la jouer. Bientôt, il faudra se bagarrer, tenez-vous bien, avec ceux qui ne veulent qu'aller jouer la phase de poule. Parce que le chèque qu'on prend la phase de poule sera largement suffisant. Et puis on laissera les gros batailler entre eux. Donc la Coupe d'Europe devrait plus se pencher sur tous ces problèmes-là. Créer la troisième, je ne sais pas pourquoi faire. En fait, je ne comprends pas trop ce qu'il va y avoir là-dedans.
Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme ?
Rajouter une Coupe d'Europe, comme tu dis, et toi tu trouves bien ça bien que ça soit Dijon ou ces clubs là qui finissent 7e, 8e, 9e du championnat. Faut pas prendre les gens pour des cons non plus, ou les joueurs pour des cons. Tu crois que ils vont être excités d'aller jouer des matchs de Coupe d'Europe, comme tu dis, entre guillemets, parce qu'on a fait plaisir
surtout
à certains pays.
Ça représentera rien, et puis ils n'auront même pas les moyens de le faire pas.
Mais parce que déjà, tu veux que je te dise, il y aura pas assez de juste l'envie des clubs. La plupart des clubs, quand ils sont qualifiés en Europa League, écoute, hein, qui ont des moyens donc un petit peu supérieurs, un petit peu beaucoup même supérieurs à Dijon ou ces clubs-là. On cite Dijon, mais on pourra en citer d'autres. Déjà, sont dans la gestion sur les matchs d'Europa League parce que trop de matchs, donc trop de fatigue et pour l'objectif.
Ça c'est un truc très français. Hein, on a eu le débat. À
ouais, mais t'en fais pas. Il y a pas qu'en France quand même que ça se passe comme ça. Hein. Je pense que le raisonnement, ils sont pas plus cons aussi à l'étranger. Ils pensent la même chose. Sauf que là, ça commence à changer avec l'Europa League parce que cette importance, les derniers vainqueurs d'Europa League, ils ont de la gueule quand même. Donc cette compétition a de nouveau attire de nouveau les clubs.
On l'a surtout vu. À partir du moment où t'as un club de ton pays qui brille comme l'OM l'année dernière, d'un coup c'est l'Europa League, c'est formidable. Vous voyez que c'est formidable.
Exactement. Voilà.
Vous voyez que c'est génial. Donc, vous voyez qu'on vit des super moments. Et puis l'Atlético. Se tape dans la foulée la Super Coupe d'Europe aux dépens du Real, ça fait un super match et il gagne en
et
plus.
Puis,
voilà. Donc il faut pas snober les coupes d'Europe, aucune. Quant à cette troisième,
contre,
là c'est vrai qu'elle laisse perplexe sur comment elle va fonctionner et avec qui.
Si tu revois pas la formule des autres, et à mon avis ils vont pas la revoir parce qu'ils viennent de valider la nouvelle formule de Champions League avec les quatre premiers des championnats majeurs, plus en France 2+1 et d'autres pays pareils. C'est pas pour te dire là maintenant un an après écoutez, on va retirer une place en Ligue des Champions parce que c'est ce qu'il faudrait faire quand même dans ces cas-là, parce que si tu veux créer cette troisième Coupe d'Europe, déjà je vois pas l'intérêt de créer une troisième Coupe d'Europe pour les équipes qui ont fini 5e ou 6e ou 7e ou 8e, mais plutôt comme tu disais tout à l'heure remettre dans ces cas-là en place la Coupe des Coupes. Celle-là elle a fonctionné. Alors
la Coupe des Coupes, tu peux mettre les finalistes de coupe, si le vainqueur de coupe est en Ligue des Champions, par exemple.
Oui. Alors après, il peut y avoir dans certains pays, par exemple un Barça Real, où tu sais que ces deux-là, ils vont faire la Ligue des Champions.
Il peut y avoir que Vigny aussi.
Et par contre, il peut y avoir des bonnes surprises pour ces clubs-là. Oui, mais ces clubs-là, par contre, vu l'intérêt qu'elle a eu il y a quelques années, cette Coupe d'Europe, là, peut-être que ça sera attractif pour les vainqueurs.
C'est marrant, on a parlé de Dijon, on a un supporter de Dijon avec nous, dis donc.
Il a envie de faire la Coupe des Coupes.
Salut Romaric.
Salut à tous, bonsoir messieurs.
Salut Romaric.
Tu l'as fait toi cette troisième Coupe d'Europe avec Dijon ?
Mais alors attendez, ça me fait rigoler parce qu'à chaque fois qu'on cite un club entre guillemets très moyen de Ligue 1, on cite
ça
Dijon.
Ça tombe sur Dijon.
Dans le Moscato Show, c'est génial. Dans le
c'est
Moscato
bizarre.
Show, j'ai écouté Eric et il parlait de Dijon Recreativo Huelva. Et j'ai envie de vous dire les gars, tant pis. Moi je suis supporter dijonnais, je peux me permettre l'expression, ça me fait bander. Ça me ferait super plaisir de voir. Je suis désolé.
Mais je te comprends moi.
Mais moi, je suis désolé, t'étais supporter de Strasbourg, il me semble.
Tu me mets, qu'est-ce que je pourrais te dire
Strasbourg-Birmingham.
Strasbourg-Birmingham, ça me fait bander aussi.
Mais franchement, arrêtez
ça
vos
me
conneries.
Fait plaisir. Je suis désolé.
Mais ça va vous faire bander, combien de temps?
Mais
arrêtez vos bêtises sur le premier match, parce que il va y avoir la découverte de cet événement, mais le deuxième match, tu verras.
Mais toi, t'as bouffé du caviar avec ton PSG pendant des années, laisse nous kiffer nos petits matchs.
Excuse-moi, j'ai gagné la Coupe Intertoto, tu vois, cette fameuse Coupe Intertoto avec 3. Moi, j'ai kiffé cette Coupe Intertoto avec 3. Mais parce que on était en train de la découvrir. Mais une fois que tu l'as faite, mais après c'est fini, t'as envie de passer à autre chose. On avait goûté la coupe UEFA parce qu'on s'était qualifié. Mais derrière, va reparler aux gens ou aux joueurs les années d'après. Bon, ils l'ont jamais refaite, je suis parti, c'est pour ça. Mais
Marie-Claes, il ne comprend pas.
Mais non.
Non mais c'est Jérôme avec son boulard là qui nous explique que depuis qu'il est parti de 3-3, on n'est même plus une équipe de foot. Ça, j'adore Jérôme. Mais c'est ça.
Demande aux Troyens le seul titre qu'ils ont eu, avec qui ils l'ont eu.
Jérôme, on s'est tapé des matchs contre Châteauroux, on s'est tapé des matchs contre Tours, contre Niort. J'ai rien contre les Chamois nordais, mais à un moment donné, pour un petit club comme Dijon, on parle de nous en ce moment parce qu'on réussit bien, mais j'espère que ça va durer. Mais je suis pas dupe. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que Cette coupe, alors déjà, vous en parlez depuis tout à l'heure, vous avez même pas défini les règles. Faut savoir qu'en fait, en ce moment, en Coupe d'Europe, il y a 32 clubs en Ligue des Champions et 48 en Coupe de l'UEFA. Ce qu'ils veulent faire, c'est diviser en 3 groupes de 32. Donc, ça rajouterait 16 équipes. Ça, déjà, faut le dire. Faut bien expliquer comment
c'est. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure.
Oui, non, mais vous l'avez expliqué, mais, ou alors j'ai pas entendu.
Sans faire la répartition que tu as fait.
Voilà. Et en tout cas, ce qui permettrait à, je pense, en tout cas, en France, d'avoir un club de plus, au lieu d'en avoir 6, on en aurait 7. Qui nous permettrait d'avoir un représentant en plus en Coupe d'Europe. Vous parliez des droits TV. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué au niveau des droits TV. Il y a énormément de diffuseurs qui veulent avoir des droits. On voit Canal+ est en grande difficulté. Ça leur permettrait, alors j'ai une connerie, mais ça leur permettrait de récupérer un match de Coupe d'Europe à diffuser sur leur chaîne. Donc bien évidemment qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt lucratif.
Permets-moi de te dire, tu es en délire total.
Ah ben je veux bien le croire.
Mais malgré tout, je suis désolé pour toi, mais ton match que les diffuseurs vont acheter, d'abord, je sais pas combien, et en plus, je sais pas les audiences. Déjà, si tu connaissais les audiences des matchs de Ligue 1 qui ne concernent pas l'OM, le PSG ou Lyon.
Oui, c'est dérisoire, oui, bien sûr.
C'est dérisoire par rapport au prix
que ça coûte. Mais sans aller chercher ces matchs-là, Daniel, tu prends les matchs d'Europa League. Juste déjà les matchs d'Europa League.
Quand tu vois c'est absolument pas rentable. Donc on ne se battrait pas pour les diffuser. Ou alors parce que c'est vendu une poignée de figues, tu le mets, ça fait 200 000 personnes et puis OK, puis toi si c'est ton club, tu as envie de le regarder. Très bien, pourquoi pas. Mais
c'est vrai qu'un Dijon Vitesse Arnhem, tout le monde a envie de le regarder.
On va pas se battre pour, tu vois, Romaric, c'est ça le truc.
Moi, le Strasbourg Passos de Ferreira.
tu rigoles, mais tu vas y avoir le droit un jour. Tu vas moins rigoler. On verra si tu fais le travail.
Ce sera la Coupe d'Europe quand même, même si c'est la 12e.
Ouais,
Romaric, merci. Dans quelques instants, débrief des matchs internationaux du soir.
Comment tu peux parler comme ça? T'as gagné la Coupe Intertoto avec Strasbourg.
Ah ouais.
Ben oui, mais comment tu peux.
On a dit qu'on a gagné. Strasbourg a éliminé le Barça en Coupe d'Europe il y a quelques années. Alors, dans les années 50, à la pièce.
Mais. Exactement, donc pour un vrai Strasbourgeois qui connaît l'histoire du club, t'es en train de te dire ou même t'exciter sur un Strasbourg Passos Ferreira.
On a éliminé Liverpool il n'y a pas si longtemps.
Bon,
bref. Allez, on est à la bourre. Dans quelques instants, foot international, OM, quiz, actu du jour. C'est le programme de la deuxième heure de l'After. A tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot.